Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment le corps lutte contre le froid? Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 22 janvier 2025 dans la presse. Attention aux engelures. Prudence chez les aînés et les tout-petits. Couvrez vos extrémités. Les mises en garde se multiplient quand une vague de froid déferle sur le Québec. Mais que se passe-t-il exactement dans le corps lorsque la température ressentie est de moins 20 ou moins 30? Le corps protège les organes vitaux. Lorsqu'il fait froid, les vaisseaux sanguins périphériques, ceux des mains, des pieds et de la peau, se contractent. Le sang est chaud et quand il circule près de la peau, le corps perd de la chaleur, explique le docteur Stéphane Perron, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Pour éviter cette perte, les vaisseaux sanguins près de la peau se resserrent, ce qui réduit la circulation en surface. Le sang reste alors au centre du corps, où la chaleur est mieux conservée, précise-t-il. Le corps protège ainsi les organes vitaux et sacrifie en quelque sorte les mains, les pieds, les oreilles et la peau. D'où l'importance de bien les protéger. Mercure, vent et humidité. Le corps ne réagit pas qu'à la température extérieure. Au vent aussi. À partir de moins 28, avec l'indice de refroidissement éolien, c'est clair que les risques d'engelure augmentent rapidement, note le docteur Perron. Et plus la température est froide, et plus on est exposé longtemps, plus les risques d'engelure augmentent. Une engelure peut survenir en 30 minutes lorsque la température ressentie, indice de refroidissement éolien, atteint moins 28 si la peau exposée au froid n'est pas protégée. À moins 55, c'est en bas de 2 minutes, signale le docteur Perron. Autre facteur important, selon le médecin, le fait d'être mouillé ou pas. Lorsqu'il fait chaud l'été, le corps transpire pour faire descendre la chaleur corporelle. C'est la même chose, malheureusement, en l'hiver. Quand on est mouillé et que l'eau s'évapore de nous, on perd aussi de la chaleur, indique-t-il. Ça accélère le refroidissement du corps. Les pieds mouillés gèlent plus rapidement que les pieds au sec, car l'eau est un meilleur conducteur thermique que l'air, par exemple. Elle conduit très bien la chaleur et le froid, précise le docteur Perron. Si nos vêtements sont détrempés, il vaut mieux se changer avant de retourner dehors. Pourquoi les aînés sont plus vulnérables? Les personnes âgées sont vulnérables à la chaleur, mais aussi au froid. Leur thermostat interne, c'est-à-dire leur capacité de maintenir leur température interne, est affectée, indique la gériatre Julia Chabot. Le mécanisme de contraction des vaisseaux sanguins se déclenche moins bien. Les personnes âgées ont souvent une plus mince couche de gras sous-cutané. Notre petite couche de laine naturelle, illustre la docteure Chabot. Elle est moins efficace en vieillissant. Il y a un peu moins d'isolant. Les gens âgés qui souffrent de troubles neurocognitifs, comme la démence, n'ont pas toujours le réflexe de mettre une couche de vêtements supplémentaires par temps froid, constate-t-elle. Ils ne vont pas tous nécessairement savoir qu'il va faire très froid, indique la docteure Chabot. Elle recommande de contacter les personnes âgées vulnérables de son entourage pour leur rappeler qu'il fait froid dehors, qu'il faut bien s'habiller à l'extérieur et qu'il ne faut pas y rester longtemps. Si on est capable de rester à l'intérieur, on reste à l'intérieur, dit-elle. Et les jeunes enfants? Ils sont aussi vulnérables au froid, parce qu'ils ont une plus faible masse, souligne le docteur Perron. Si vous avez un corps plus gros, ça va prendre plus de temps à le refroidir, explique-t-il. Sur son site Internet, la Société canadienne de pédiatrie souligne que les bébés ont besoin de plus d'emmitouflement car ils ne peuvent pas générer de chaleur corporelle ou vous dire qu'ils ont froid, comme le ferait un enfant plus âgé. Elle recommande aux parents de vérifier souvent si leur tout-petit est au chaud et au sec. Les enfants plus jeunes doivent prendre des pauses fréquentes et entrer boire quelque chose de chaud, écrit-elle. Si la température ou l'indice de refroidissement éolien est de moins 27 ou moins, pensez à les garder à l'intérieur, poursuit-elle. Des signes à surveiller. Lorsqu'on se met à grelotter, c'est que la température corporelle diminue. On commence à perdre le contrôle, affirme le docteur Perron. C'est un bon signal pour rentrer à l'intérieur. Il y a engelure, lorsque la peau devient blanche. Le docteur Perron conseille de rentrer à la maison et de réchauffer les parties gelées, par exemple le nez, en mettant sa tête dans un chandail jusqu'à ce que la peau retrouve sa couleur normale. C'était « Comment le corps lutte contre le froid », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 22 janvier 2025 dans la presse.
Le Boys Club n'est plus ce qu'il était. Un texte de Martine Letarte, paru le 24 janvier 2025 dans La Presse. Alors que l'Ordre des ingénieurs du Québec, OIQ, compte maintenant 16 % d'ingénieurs et candidates à la profession, comparativement à 4 % en 1989, les efforts se poursuivent pour attirer plus de femmes. Mais déjà, une petite révolution s'est déroulée sur le terrain. Le Boys Club n'est plus ce qu'il était. Hélène Brisebois, ingénieure en structure et présidente de SDK, en sait quelque chose. Sortie de Polytechnique Montréal en 1987, elle s'est rapidement trouvée un emploi en génie conseil chez SDK, où elle est devenue actionnaire après 2 ans. Citation. Des réunions qui commençaient à 16 heures avec des promoteurs immobiliers, c'était courant, se souvient celle qui est devenue présidente en 2007. De toute façon, on travaillait souvent jusqu'à 20h ou 21h. On se faisait venir de la pizza ou du poulet. On rentrait aussi au bureau le dimanche. Fin de citation. Hélène Brisebois, qui a travaillé notamment sur le campus 1000 de l'Université de Montréal, a eu ses enfants au début de carrière. Citation. « J'avais une nanny », précise-t-elle. Heureusement, mon chum avait un travail plus facile à concilier avec la famille au niveau des horaires. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, plus personne n'accepterait ça. Les gars aussi partent à 16 heures pour aller à la garderie. La société a évolué dans le bon sens. Fin de citation. Chez SDK, les femmes représentent environ le tiers des 60 employés, mais environ 20 % des ingénieurs, précise Hélène Brisebois, qui travaille maintenant, entre autres, sur l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, un projet de 2 milliards de dollars. S'il reste du chemin à faire, elle remarque que le portrait a bien changé depuis ses années à l'université. Citation. « Nous n'avions pas de modèle », dit Hélène Brisebois. « Je n'avais jamais rencontré d'ingénieur avant d'entrer à Polytechnique ». Fin de citation. Les femmes en génie sont maintenant plus nombreuses aussi dans des rôles de leadership. Quelques-unes sont à la tête de firmes d'ingénierie. De plus, les deux grandes écoles de la métropole, Polytechnique Montréal et l'École de technologie supérieure, ETS, sont maintenant dirigées par des femmes, soit respectivement Maude Cohen et Cathy Begg, deux ex-présidentes de l'OIQ. Citation. Les femmes ont besoin de modèles et de mentors pour choisir un domaine. Fin de citation, affirme Sophie Larivière-Manta, présidente de l'OIQ. Des modèles et des pratiques inclusives. Donner des modèles aux jeunes, c'est d'ailleurs l'une des principales stratégies de l'OIQ pour convaincre plus de filles de choisir le génie. Citation. Nos ambassadrices et ambassadeurs vont les voir dès l'école secondaire parce que c'est là qu'elles font les choix de cours essentiels pour pouvoir aller en génie. Fin de citation, explique Sophie Larivière-Manta. À la suite d'un sondage réalisé en 2019 auprès des femmes, qui révélait que 45 % des ingénieurs disaient avoir déjà subi de la discrimination dans leur carrière, l'OIQ a aussi réalisé des guides pour sensibiliser les employeurs à l'importance d'avoir des pratiques inclusives. Chez BPA, une firme de génie conseil de 1500 employés au Canada qui évalue avoir de 20 à 23 % de femmes chez ses ingénieurs et techniciens, des efforts se font dans ce domaine depuis plusieurs années. La chef des talents et du développement durable, Renée-Claude Turgeon, mentionne que chaque employé doit faire une formation sur les biais inconscients. Puis, toute l'équipe d'acquisition de talents a été formée en diversité, équité, inclusion, et un comité a été créé sur le sujet. Citation : L'objectif, c'est d'être un milieu de travail inclusif, explique-t-elle. Cela signifie qu'une personne peut être qui elle est, partager ses idées, se sentir écoutée et sentir que même si elle appartient à un groupe minoritaire, elle a les mêmes chances que les autres. Si on a cette fondation, on peut travailler à attirer plus de femmes. Sinon, on n'y arrivera jamais. Fin de citation. Parmi les changements réalisés, elle mentionne que son équipe d'acquisition de talents s'assure toujours que ses efforts de repérage incluent des femmes. De plus, le panel qui réalise les entrevues d'embauche est diversifié. Selon Mme Turgeon, citation, il faut que la candidate ou le candidat pour le poste se reconnaisse parmi les personnes qui font l'entrevue. Fin de citation. Dans les dernières années, des efforts ont aussi été faits pour avoir des femmes au conseil d'administration, 33 % et dans l'équipe de direction, 26 %. Citation, plusieurs femmes ont aussi été promues associées, affirme Renée-Claude Turgeon. Nous avons d'ailleurs différents programmes de leadership pour faire progresser les gens et nous nous assurons toujours qu'un bon pourcentage de femmes y participent. Fin de citation. Des équipes plus diversifiées. Qu'est-ce que l'arrivée de femmes change concrètement dans ces boys clubs d'autrefois? Citation. En construction, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'argent en jeu, indique Hélène Brisebois. Depuis qu'il y a plus de femmes, la façon dont les gens s'adressent aux autres dans les réunions s'est adoucie. Il y a moins de sacrage aussi. Une politesse s'est installée. Fin de citation. Il y a aussi un impact sur les solutions trouvées. Citation. C'est prouvé que lorsqu'il y a de la diversité dans un groupe, il y a une diversité dans les idées, indique Renée-Claude Turgeon. Dans une entreprise inclusive, les équipes sont riches. Chaque projet en bénéficie. Fin de citation. C'était « Le Boys Club n'est plus ce qu'il était », un texte de Martine Letarte, paru le 24 janvier 2025 dans La Presse.
Pourquoi sa musique nous apaise autant? Un texte de Sylvia Galipo, paru le 18 janvier 2025 dans La Presse. Calme, douceur et apaisement. Les mélodies d'Alexandra Strelitzky semblent avoir des pouvoirs uniques, s'il faut en croire le déluge de réponses reçues à la suite de notre appel à tous lancé avant les fêtes. Vous êtes nombreux à l'écouter pour traverser un deuil, vous poser avant une opération ou vous poser tout court, comme si elle vous berçait à travers les aléas de la vie. Et c'est peut-être exactement ce qu'elle fait. Explication scientifique du pouvoir de ces airs enveloppants en trois temps. 1. Des témoignages émotifs par centaines. L'expression nous vient de José Coulombe, célébrante qui nous a écrit fin décembre 2024 pour nous dire qu'elle suggérait couramment de jouer « Valse pour maman » en clôture de cérémonie funéraire. Pour cause. Ça permet de repartir avec le cœur plus léger et de conserver cet air enveloppant qui apaise si bien. Vous avez été des centaines à répondre généreusement à notre appel en vue de faire partager la place qu'occupe la célèbre compositrice et interprète dans vos vies. Et les émotions que cette douce musique éveille en vous. Et elles vont toutes plus ou moins dans la même direction. Le calme et une certaine sérénité. Technologue en radio-oncologie, Marie-Lou Roy nous a écrit « C'est la musique d'Alexandra qu'on choisit pour accompagner les patientes à travers leur traitement et elle est grandement appréciée. Elle apporte une belle douceur. Même les enfants turbulents semblent apaisés, comme par magie, par ces mélodies. » Catherine Grégoire, directrice d'une école primaire, confirme « Chaque fois que je fais jouer les chansons d'Alexandra Strelitzky en trame de fond, il se passe quelque chose. Tout d'abord, cela me calme, me prépare à intervenir efficacement et non à réagir. L'élève s'apaise et nous avons de nouveau accès à lui afin de l'aider à nommer ses émotions et retrouver des stratégies pour le retour en classe. Et c'est sans parler des témoignages bouleversants de récits de deuil reçus, notamment Vanessa Gagnon, qui a attendu puis perdu son bébé, mort-né, en écoutant Alexandra Strelitzky. J'ai écouté ses œuvres mille et une fois depuis. Sa musique a bercé mon deuil, a-t-elle témoigné. 2. La mécanique musicale dans nos cerveaux. Cela ne surprend pas la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. La musique génère beaucoup d'émotions. Alexandra Strelitzky, sans parole et au piano, est très évocatrice d'émotions pour moi, dit-elle. En fait, presque toutes les musiques, quelles qu'elles soient, provoquent une émotion, nous explique Robert Zator, neuroscientifique de l'Université McGill, fondateur du Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, BRAMS. Ainsi, la musique joyeuse invite à la joie, la musique mélancolique à la mélancolie et la musique douce à la douceur. C'est ça qui est incroyable, dit M. Zator. La musique peut transmettre une émotion d'une personne à l'autre. D'où l'effet de communion ressenti quand on est plusieurs à écouter une même musique et à éprouver, ce faisant, les mêmes émotions. Pascal Bourbonnais, qui a découvert Alexandra Strelitzky en arrêt de travail pendant la pandémie, en témoigne en racontant son premier concert à la Place des Arts. Son interprétation de Burnout Fugue était magnifique, et j'ai pleuré un peu en me rappelant cette épreuve de ma vie et le bien que sa musique m'avait fait. Quand la pièce s'est terminée, j'ai vu ma voisine de siège qui, comme moi, essuyait ses larmes. J'ai compris avec émotion que cette pièce avait la même signification pour plein de gens qui avaient sûrement vécu et ressenti la même chose que moi. Robert Zator, qui a publié « From Perception to Pleasure »,« The Neuroscience of Music and Why We Love It », creuse la mécanique de la musique sur nos cerveaux depuis 40 ans. Ses recherches par imagerie cérébrale ont permis de démontrer que, contre toute attente, la musique, tout type confondu, éveille le système de récompense dans le cerveau, normalement activé par des stimuli physiques, la nourriture, la sexualité, et essentiel, tenez-vous bien, à la survie. Si on ressent toutes ces émotions, c'est parce qu'il y a une réponse neuronale reliée à un aspect important de la survie. Non. Cela ne veut pas dire que la musique est essentielle à la survie de notre espèce, précise-t-il, mais sans musique, probablement qu'on aurait des symptômes de dépression ou d'anxiété. 3. Le cas particulier de la musique néoclassique. Le psychologue Simone Dallabella de l'Université de Montréal, pianiste de formation et co-directeur du laboratoire BRAMS, croit que le style particulier de musique que compose Alexandra Strelitzky, le néoclassique, y est aussi pour quelque chose. Elle utilise le langage de la musique classique, mais dans le 21e siècle, dit-il. Cela fait appel à des capacités musicales partagées par tout le monde. Parce qu'on est tous sensibles à certaines structures rythmiques et harmoniques propres à la musique classique, fait-il valoir. Mais, en même temps, c'est nouveau. ce n'est pas tout. Ces mélodies rappellent aussi beaucoup la musique romantique, ajoute-t-il, par leur changement d'intensité et leur modulation harmonique, et cela touche le cœur des gens. Enfin, il y a tout l'enrobage, conclut le psychologue, en référence à la mise en scène, à sa présence au piano, à la lumière et puis à son talent, tout simplement. C'est une excellente pianiste, très talentueuse. C'était « Pourquoi sa musique nous apaise autant ?» un texte de Sylvia Galipo, paru le 18 janvier 2025 dans La Presse.
Les bons et moins bons coups de Justin Trudeau sur les dossiers LGBTQ+. Un texte de Philippe Granger, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. De l'interdiction des thérapies de conversion à la levée de la période d'abstinence pour les homosexuels souhaitant faire un don de sang, le mandat de Justin Trudeau, qui se sera échelonné sur une décennie, a été marqué par des avancées pour les personnes LGBTQ+, qui étaient attendues depuis longtemps. Mais certains défis persistent, alors que des déceptions ont été partagées et que de nouveaux problèmes émergent. Les voix ensoleillées, avait promis Justin Trudeau lors de son élection comme premier ministre en 2015. Dans les années qui ont suivi, le député de Papineau a multiplié ses apparitions lors d'événements LGBTQ+, et plus particulièrement lors des marches de la fierté de nombreuses villes. J'ai trouvé en Justin Trudeau un allié exemplaire. Par ses gestes concrets et ses paroles inspirantes, il a contribué à bâtir une société plus juste et égalitaire. Son leadership a nourri mon engagement personnel, ainsi que celui de nos communautés, souligne ainsi Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence, dans une publication partagée au début janvier. Tout au long de son mandat, il s'est distingué comme un allié remarquable des communautés 2SLGBTQIA+, renforçant la position du Canada comme chef de file mondial en matière de droits humains et d'inclusion, résume-t-il, rappelant au passage que le 23e premier ministre du Canada a gagné en 2016 le prix Laurent McCutcheon de l'organisation, en reconnaissance de son engagement exceptionnel contre l'homophobie et la transphobie, ainsi que pour son soutien indéfectible envers nos communautés. De nombreuses mesures à son actif. C'est sous Justin Trudeau que fut institué ce que l'on appelle aujourd'hui le secrétariat 2ELGBTQI+, et que sera aussi lancé le premier plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ au Canada. Le gouvernement Trudeau aura tenté de mettre fin à certains chapitres douloureux de l'histoire LGBTQ+ du pays. En 2017, le premier ministre, au nom du gouvernement canadien, s'excuse aux personnes ayant survécu à la purge LGBT et au groupe des communautés 2ELGBTQI+. En 2019, le Parlement met aussi fin aux infractions relatives à la pénétration anale, au vagabondage et aux maisons de débauche. Puis, en 2022, la Chambre des communes adopte à l'unanimité la loi interdisant les thérapies de conversion au Canada. Cette même année, Ottawa met aussi fin au délai prévu spécifiquement pour les hommes ayant eu des relations homosexuelles en ce qui a trait au don de sang. Des avancées ont aussi été faites concernant l'identité de genre. En 2017, l'identité de genre et l'expression de genre se voient désormais protégées en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne. Quelques années plus tard, le Canada est devenu le premier pays du monde à recenser sa population trans et non binaire. Au pays comme sur le plan international, face à Danielle Smith ou à Giorgia Meloni, le premier ministre Justin Trudeau n'hésite pas à critiquer des mesures qu'il considère comme étant anti-LGBTQ+. En outre, l'ère Trudeau aura aussi été marquée par une présence LGBTQ+ au sein du cabinet des ministres, avec la nomination du franco-albertain Randy Boissonneau, premier député ouvertement homosexuel de sa province, au poste de ministre du Tourisme, puis ministre de l'Emploi et des Langues officielles. La Québécoise Pascale Saint-Onge a, quant à elle, été au poste de ministre des Sports, puis ministre du Patrimoine canadien. Cette dernière est devenue, de ce fait, la première femme ouvertement lesbienne à être ministre au fédéral. Elle est aussi devenue la première ministre ouvertement lesbienne à prendre un congé parental. Ayant dirigé de nombreux ministères, dont celui du Travail, des services aux Autochtones et des ressources naturelles, le Terre-Neuvien Seamus O'Regan a aussi fait partie du cabinet le plus queer de l'histoire du pays. La fin de la criminalisation du VIH, talon d'Achille. Mais avec un bilan politique, viennent presque inévitablement des critiques, ou du moins quelques défis et problèmes qui persistent. Le gouvernement du Canada est conscient qu'il reste du travail à faire pour que chacun puisse être soi-même, de façon libre et authentique, a admis lui-même le gouvernement dans une déclaration datant de 2022. En novembre dernier, le gouvernement du Canada a communiqué à la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH, CCRCV, sa décision d'abandonner tout projet de réforme législative concernant la criminalisation du VIH. Une telle annonce a pourtant suivi après des années de discussions avec Ottawa, qui avait d'ailleurs promis des mesures de réforme concrètes. Le droit pénal actuel en ce qui a trait à la non-divulgation réprime trop durement les personnes vivant avec le VIH et le sida et les stigmatise, ce qui les décourage de se faire soigner et dépister, avait indiqué le premier ministre Justin Trudeau dans une déclaration partagée à la fin 2023. La criminalisation du VIH décrit l'application injuste du droit pénal contre les personnes vivant avec le VIH sur la seule base de leur statut sérologique. Ceci comprend l'application de dispositions pénales spécifiques ou l'application du droit pénal général pour poursuivre des personnes vivant avec le VIH pour transmission involontaire du VIH, exposition perçue ou éventuelle au VIH et ou non-divulgation du VIH par une personne qui connaît son statut. C'était les bons et moins bons coups de Justin Trudeau sur les dossiers LGBTQ+. Un texte de Philippe Granger paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.